France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
La semaine dernière, une place Monique Wittig a été inaugurée à Strasbourg dans le quartier de Nordhof, région où elle est née en 1935, à l'occasion de la Journée internationale de la visibilité lesbienne. C'était samedi dernier. Dans le même temps, ou même un peu avant, l'année 2023, vingtenaire de sa mort, a été l'année Wittig, avec un grand nombre de mises en scène de ses textes ou encore plusieurs colloques organisés. Exilée aux États-Unis dans les années 70, éloignée des mouvements féministes français pendant plusieurs décennies, la penseuse est aujourd'hui une icône pour des générations de militantes lesbiennes et féministes. Alors comment comprendre cette renaissance, ce renouveau? Comment les instruments de la pensée Wittig peuvent-ils nous permettre de comprendre le monde contemporain? Pour tenter de le saisir, justement, une invitée ce soir, Sarah Garbagnoli, bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay, bonsoir aux personnes qui nous écoutent et merci de m'avoir invitée.
Merci à vous d'être présente. Vous êtes sociologue, féministe, chercheuse indépendante rattachée à l'université Paris 8 et à l'université de Vérone en Italie. Vous avez dirigé avec Natacha Kutyrskovitch, La pensée Wittig, une introduction, c'est aux éditions Payot. Et en 2024, vous avez signé Dans l'arène ennemie, qui rassemble des textes, articles et entretiens inédits de Monique Wittig. C'était aux éditions de Minuit. Merci d'être présente ce soir dans Question du soir.
Pour moi, c'est magnifique le monde des femmes. Ce sont les êtres qui sont les plus riches, les plus surprenantes, les plus extraordinaires, parce que je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles ont été opprimées si longtemps, peut-être parce que je les désire tout simplement. Mais comme les garçons ont des cheveux longs maintenant, il m'arrive de voir des femmes. Je ne vois plus que des femmes. Quand j'étais gosse, j'étais élevée avec des femmes, et uniquement avec des femmes. J'étais très bien. Après, j'étais très mal parce que tout ça a changé. Il a fallu vivre dans un autre monde où tout d'un coup, la vraie valeur, c'était les hommes. Moi, je n'avais pas appris à penser comme ça, du tout. C'était un choc pour moi de découvrir, et à travers les livres, et à travers la réalité de tous les jours, que la vraie valeur de ce monde, c'était les hommes. Et que nous, on n'existait pas, alors que pour moi, c'était nous seuls qui existions, d'abord.
Monique Wittig qui s'exprimait en 1973, Sarah Garbagnoli, je le disais en introduction, hein, une place Monique Wittig inaugurée la semaine dernière à Strasbourg. Elle revient de loin quand même, Monique Wittig, il a fallu du temps pour qu'elle soit reconnue par les instances publiques, par les responsables politiques, en tout cas une certaine frange d'entre eux.
Absolument. En effet, depuis une dizaine d'années désormais, l'œuvre de la théoricienne, de la militante et de la écrivaine Monique Wittig suscite, et heureusement, une importante effervescence intellectuelle, politique, artistique, éditoriale. Wittig connaît l'enthousiasme d'un public de plus en plus large. Il y a des conférences, il y a la réédition de ses textes, des nouvelles traductions, des recueils de textes qui sont publiés, comme vous disiez, dans l'arène ennemie. Des rencontres, des lectures, des performances qui s'inspirent de son travail et qui sont un dialogue avec des militantes, avec des chercheuses et avec des artistes. Le nom de Wittig ou des extraits de ses œuvres sont arborés dans les pancartes de manifestations, sur des t-shirts, sur des tote bags. Un jardin à Paris à son nom, une rue à Danemarie, sa ville de naissance, une place, comme vous disiez, à Strasbourg, inaugurée samedi dernier, jour international de la visibilité lesbienne. Pourquoi Wittig? Pourquoi avec une telle force de frappe aujourd'hui? Eh bien, parce que Wittig a posé des questions radicales sur la domination et a donné des réponses radicales à ces questions. Et radical veut dire aller à la racine des choses et proposer quelque chose de vertigineux et de oxygénant. Il s'agit des questionnements qui parcourent aujourd'hui les mouvements sociaux, les analyses, les théories contemporaines. Je pense notamment à la dénaturalisation de la catégorie de sexe, à l'hétérosexualité comme système d'oppression, à la démasculinisation de la langue, à la critique de notions d'humain et d'universel qui sont confisquées par les groupes dominants, à l'analyse du fonctionnement des systèmes d'exploitation et d'appropriation sexiste, hétérosexiste, raciste et capitaliste.
Alors
comme vous pouvez l'entendre, c'est extrêmement gênant.
C'est vaste et gênant, mais on va essayer de débattre justement, de discuter de tous ces points-là. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur cette année 2023. Pourquoi on classe cette année comme l'année Wittig? Qu'est-ce qui s'est passé très concrètement du point de vue événementiel et qu'est-ce qui s'est passé dans le renouveau de sa pensée?
Wittig est devenu effectivement un point incontournable aujourd'hui pour des militantes, des chercheuses et des artistes. Et comment sa pensée est arrivée jusqu'à nous? À travers ses œuvres, mais à travers aussi un travail de transmission extrêmement important qui a été fait par des personnes proches de Wittig. Sandé Tsai, qui était sa compagne, qui est co-auteur de Wittig, Dominique Sanson-Wittig, qui est sa nièce, Suzette Robuchon, qui est militante et présidente de l'association Les Amis de Wittig, Louise Turcotte, militante lesbienne, lesbienne et amie de toute une vie de Wittig. Je pense aussi au travail de chercheuses lesbiennes et queer qui ont, depuis des années, travaillé sur Wittig. Tout cela nous a permis, effectivement, de ne pas oublier cette pensée radicale qui change la vie des gens. Je parle de mon expérience. Dès que je l'ai lu, ma vie a changé à mieux. C'était comme trouver un bonbon d'oxygène. C'était comme avoir de nouvelles lunettes pour voir le monde, pour voir la domination où normalement le sens commun met juste la différence des natures. Et c'est intéressant de dire comment la performance d'Adèle Haenel, qu'elle consacre actuellement à Monique Wittig, s'intitule précisément « Voir clair avec Monique Wittig ».
Qu'est-ce que la quatrième vague de MeToo, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, a permis justement de jouer dans le renouveau, la renaissance de cette pensée? Est-ce que c'est aussi un contexte qui favorise cette réémergence et cette reconnaissance?
Certainement, c'est aussi un contexte politique qui interroge la dimension structurelle du système hétérosexuel qui s'approprie les femmes, les groupes minoritaires et qui se fonde sur un système de perception naturaliste que Wittig a appelé la pensée straight. Donc certainement, elle rentre en résonance avec des questionnements qui traversent les fractions les plus radicales des mouvements sociaux, que ce soit le mouvement féministe, que ce soit le mouvement LGBTQI à plus, que ce soit le mouvement antiraciste.
Alors Monique Wittig, racontez-nous d'abord d'un point de vue biographique, qui était-elle et justement comment est-elle entrée dans le vaste monde de la pensée ?
Donc Wittig, née en Alsace en 1935, elle s'est fait connaître comme écrivaine très très talentueuse en 1964 au moment de la publication du roman intitulé Le Poponax qui obtient le prix Médicis et suscite l'admiration de Marguerite Duras, de Claude Simon ou encore de Nathalie Sarraute, qualifiée par Wittig de grand révolutionnaire et de génie du XXe siècle. En 1970, quelques années après, Wittig a publié déjà les guerrières, mais contribue en cette année-là à l'émergence, tant par les actions qu'elle mène que par les articles théoriques et politiques qu'elle publie, à l'émergence du mouvement de libération des femmes, dont elle animera la tendance révolutionnaire, anti-essentialiste et matérialiste. Quelques années après, elle publie son troisième roman, Le corps lesbien, qui est la conséquence directe, comme elle le dit, de son engagement dans l'OMLF, et cofonde, notamment avec Christine Delphi, le collectif lesbien Le Bouine Rouge, qui aspire à faire émerger une polarisation, une politisation d'une voix lesbienne au sein du mouvement. Elle poursuit cette voie de politisation du voix lesbienne en travaillant la création d'un front lesbien international qui échoue en raison de lourdes résistances tant en dehors du mouvement qu'à l'intérieur du mouvement.
Je me permets juste justement sur cette question, sur ce moment de son existence, de son engagement aussi. Qu'est-ce qui crée les frictions qu'on a rencontrées plus tard avec le MLF, avec le mouvement de libération des femmes? On se souvient qu'elle a fait partie de ce moment fondateur, hein, le moment où elle a posé une gerbe devant le soldat inconnu en expliquant qu'on avait largement oublié la femme de ce soldat. Elle fait partie de ce moment fondateur du MLF, et dans le même temps, on a l'impression, par la suite, qu'elle y est largement marginalisée. Comment le comprendre ?
Alors, elle écrit en 74 « Si le mouvement féministe meurt, je meurs ». Ça donne la dimension politique et existentielle qui lie Wittig au mouvement qu'elle a contribué à fonder. Elle pensait le mouvement féministe, comme je disais, de manière révolutionnaire, de manière matérialiste, de manière anti-essentialiste. Mais sa vision était qu'une vision qui animait, comme tout mouvement social, le mouvement. Il y avait d'autres visions, d'autres points de vue, d'autres fractions, d'autres courants. Donc, la vision de Wittig n'était pas majoritaire. L'envie politique de Wittig d'autonomiser une voix lesbienne pour faire émerger un point de vue radical concernant l'émancipation sociale a été de plus en plus isolée, et cette déception est décisive pour la pousser en 76 à quitter la France et aller habiter aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en réalité ? Elle accuse le mouvement féministe de renoncer à la visée révolutionnaire qui devrait le caractériser, de renoncer à mettre en discussion les catégories hommes et femmes et à renoncer à vouloir détruire les groupes hommes et femmes, parce que c'est là, c'est l'existence de ces deux groupes et c'est l'existence de ces deux catégories qui sont au fondement de l'oppression des femmes, de l'oppression des groupes minoritaires pour Wittig.
Est-ce que c'est pour ça, vous estimez vous-même, Sarah Garbagnoli, qu'en retour, justement, peut-être aussi en contrepoint de cette radicalité, une part des mouvements féministes majoritaires en France l'ont marginalisée ? Est-ce que, j'allais dire, du point de vue de ces mouvements-là, cette volontaire, cette démarche de la mettre de côté ou du moins même de la mettre à part ?
Alors, je n'ai pas la réponse à cette question, mais je peux dire que sa radicalité est gênante. Est gênante, comme je disais, pour toute personne, et est gênante aussi pour des militantes qui n'épousent pas un projet qui soit si révolutionnaire. Dire que les hommes et les femmes ne sont pas des groupes naturels, mais qui sont des classes antagonistes qu'il faudrait détruire, ça donne des vertiges. Ça donne l'oxygène pour certaines, mais en général, ça donne des vertiges, parce que ça veut dire mettre en discussion l'évidence la mieux ancrée dans nos automatismes de pensée, et même dans nos automatismes de langage.
Je voudrais qu'on essaye de comprendre justement cette pensée grâce à vous. Commençons peut-être par la notion première, la notion principale de cette doctrine. L'hétérosexualité, pour elle, pour Monique Wittig, est perçue comme un régime politique. Expliquez-nous ça.
Oui, effectivement, elle prend à objet de sa théorie l'hétérosexualité, c'est-à-dire un objet qui ne faisait pas l'objet d'analyse du mouvement féministe, qui parlait plutôt de patriarcat. Mais pour élaborer sa théorie de l'hétérosexualité, qu'elle ne pense pas comme une orientation sexuelle ni comme une institution, elle construit sa réflexion au sein d'un paradigme théorique bien spécifique qui s'appelle le féminisme matérialiste. Il faut partir de là pour comprendre sa théorie de l'hétérosexualité. Au sein de ce paradigme, effectivement, les sexes sont pensés comme des classes antagonistes naturalisées. Une fois qu'on a dit ça, Monique Wittig essaye de comprendre comment, effectivement, ces classes sont constituées par des rapports de domination qu'après, on voit transformés aussi dans le langage et dans le monde symbolique par des rapports catégoriaux. Elle dit, on vit dans un régime, dans une chape de plomb qui nous fait penser que les hommes et les femmes sont des groupes naturels. Et tout ça est lié au fait que les hommes s'approprient des femmes, de leur corps, de leur temps, de leur tête aussi, de leur esprit. Et que cette appropriation peut se reproduire de manière inertielle et si facilement parce qu'elle n'est pas vue comme telle. Et elle n'est pas vue comme telle parce qu'il y a un système de perception du monde essentialiste qui, à la place de nous montrer l'oppression des femmes, nous parle des femmes comme des êtres naturels et par nature différentes. Eh bien, dit Wittig, il faut détruire ce régime politique qui a une base économique, l'appropriation des femmes, et qui a une base catégorielle qui est effectivement l'idéologie naturaliste. Il faut détruire des rapports sociaux et il faut détruire un système de perception.
La pensée straight, justement, qu'est-ce qu'elle appelle la pensée straight? Comment comprendre ce qui se cache derrière cette expression?
En fait, comme je disais, c'est un système de perception du monde qui est fondé sur des catégories qu'on pense être des catégories sans lesquelles on ne peut pas penser. C'est la catégorie homme, femme, sexe, c'est la catégorie nature, mais il met dedans aussi la catégorie blanc, noir et race. En fait, à travers cette perception du monde, on pense que les groupes sociaux, les groupes qui sont construits à partir des rapports de domination économique et sociale sont des groupes naturels. Les hommes et les femmes seraient des groupes naturels. Les blancs et les non-blancs seraient des groupes naturels. Eh bien, Wittig renverse tout cela. Elle met de l'histoire et de la politique là où le sens commun y inclut le sens commun savant, y met de la nature.
La voix encore une fois de Monique Wittig, cette fois-ci c'est en 1972.
Oui. Je trouve que l'expérience d'une femme, et en particulier d'une femme écrivaine, est complètement schizophrène. Il faut toujours faire la coupure entre les deux. D'une part, employer un langage qui n'est pas le nôtre, essayer de s'insérer dans une culture qui n'est absolument pas la nôtre, que nous n'avons même pas choisie, qui est une culture patriarcale par essence. Et je ne vois pas comment on peut s'abstraire de ça. Enfin, je trouve qu'il y a une coupure complète entre le fait de cette culture qui pèse sur nous si fort, avec toutes ces contraintes, toutes ces fascinations pour une certaine érudition, pour une certaine pratique du langage, etc., Et la lutte qu'on mène sur un autre plan, enfin, qui est de casser tout ça, d'essayer de faire passer dans ce langage et avec ce langage autre chose, enfin.
Comment elle aborde, Sarah Garbagnoli, cette vision du langage des dominants, pour reprendre son expression, comment elle l'utilise, comment elle s'immerge à l'intérieur et comment elle l'instrumentalise finalement?
Alors, il faut dire que Wittig se pense d'abord comme écrivaine. Elle écrit dans l'introduction à la pensée straight, l'écriture est ce qui lui tient le plus au cœur. Et pourquoi? Parce que le langage, en fait, est la matière première de l'écriture et de la littérature. Et le langage est vu par Wittig comme un opérateur de différents degrés d'humanisation, selon qu'on soit un homme ou une femme, selon qu'on soit un sujet minoritaire ou un sujet majoritaire, on devient absolu au relatif de le langage. bagage. D'où la nécessité pour elle, qui se pense comme écrivaine minoritaire, consciente de l'être, de s'engager dans ce qu'elle appelle un corps à corps avec le langage et avec ses présupposés hétérosexuels et majoritaires. Donc il faut lesbianiser le langage, cela veut dire travailler sur sa forme, déshétérosexualiser la forme du langage en travaillant sur les pronoms, sur les catégories et aussi en travaillant sur le canon littéraire pour lui faire dire quelque chose qui n'était pas censé dire.
Mais comment comprendre alors justement si je vous suis ? D'ailleurs, c'est la première notice de votre livre, la première page, vous dites Monique Wittig est écrivain. Pourquoi écrivain et non écrivaine alors justement ?
Ah bah, à l'époque, elle essayait de revendiquer l'universel en disant le masculin a confisqué l'universel. Et donc, à l'époque, sa bataille, c'était de ne pas féminiser le langage, mais c'était en réalité, son projet était celui de déshétérosexualiser la langue. Si on voit, on regarde son travail littéraire, on voit qu'elle propose des tentatives avec un travail sur les pronoms, avec l'usage intensif du pronom on dans le Poponax, le pronom impersonnel, avec l'usage intensif du pronom elle, dans son deuxième roman, Les Guerrières, et c'est pas du tout, elle explique une féminisation de la langue, mais une tentative d'universalisation du point de vue minoritaire, au point que dans le livre, une fois qu'on a, vaincu la guerre contre les dominants, tout le monde s'est décliné à elle, et expérimentation linguistique et pronominale encore plus étonnante, c'est le jeu qui est le protagoniste du troisième roman de Wittig, publié en septembre 73, Le corps lesbien. Ce jeu traversé par un slash dit à la fois la déchirure d'une subjectivité minoritaire, d'une subjectivité qui se pense comme relative dans le langage, mais qui veut devenir autre chose. Et donc ce jeu avec un slash n'est pas seulement un sujet pris par une déchirure, mais aussi une épine dans la chair du pied de la société hétérosexuelle, et aussi un sujet, elle dit Wittig, exalté, qui veut lesbianiser le monde, et encore une fois, lesbianiser veut dire déshétérosexualiser les rapports sociaux et les rapports catégoriaux.
Vous avez parlé du texte Les Guerrières, signé Monique Wittig. Toujours, on va entendre un extrait justement lu par Virginie Despentes.
Jadis, vous avez compris que nous nous sommes battus pour vous en même temps que pour nous. À cette guerre qui a été aussi la vôtre, vous avez pris part. Aujourd'hui, ensemble, répétons comme un mot d'ordre que toute trace de violence disparaisse de cette terre. Alors, le soleil a la couleur du miel et la musique est bonne à entendre. Eux applaudissent et crient de toute leur force. Ils ont apporté leurs armes, elles les enterrent en même temps que les leurs, en disant que s'efface de la mémoire humaine la guerre la plus longue, la plus meurtrière qu'on ait jamais connue. La dernière guerre possible de l'histoire. Elles souhaitent aux survivantes et aux survivants l'amour, la force, la jeunesse, qu'ils fassent une alliance durable sur des bases qu'aucun différent ne pourra compromettre à l'avenir. Quelqu'une se met à chanter. Semblable à nous ceux qui ouvrent la bouche pour parler, mille grâces à ceux qui ont entendu notre langage et ne l'ayant pas trouvé excessif, se sont joints à nous pour transformer le monde.
Lecture dite à la Maison de la Poésie, Sarah Garbagnoli, vous avez dit au début de cet échange que la découverte de Monique Wittig avait transformé votre vie en profondeur, intensément. Comment justement ce texte a participé à votre transformation, plutôt aussi à votre accessibilité à l'œuvre plus générale de Monique Wittig ?
Oui, effectivement, c'est un texte magnifique qui raconte la victoire d'une guerre. Et la guerre, c'est la guerre des tous les groupes minoritaires contre les groupes majoritaires. Et c'est une guerre qui se déploie avec une violence inouïe. D'ailleurs, Wittig célèbre la violence comme manière pour agir contre la violence de l'oppression. Et cette violence, en fait, permet de faire maille par maille tout le système de domination qui se manifeste dans les rapports sociaux, dans les rapports d'appropriation, dans les rapports linguistiques. Et déjà, en poésie, on voit toute la théorie de Wittig de la domination, de la nature, du statut du langage et aussi de la libération qui se fait à travers une politisation de sa propre souffrance, une politisation collective de la souffrance. Elle parle dans dès le Poponax à Virgile Non de la passion active. Et cela veut dire, la passion, c'est pathéine, c'est ce qu'on subit, c'est la souffrance. Et elle devient active une fois qu'on l'a comprise politiquement et qu'on arrive à comprendre que toute libération et toute forme de liberté passe par la politisation de la contrainte, par la lutte collective. Et sans conscience des déterminismes sociaux, il n'y a pas de marge de manœuvre possible pour notre émancipation.
Est-ce que la renaissance de cette pensée s'explique aussi par le fait qu'aux États-Unis, la situation pour les minorités, la situation en particulier pour les lesbiennes est de plus en plus difficile, du fait notamment de l'élection de Donald Trump? Est-ce que ce contexte-là favorise, j'allais dire, la réémergence de sa pensée et surtout la réappropriation des instruments qu'elle offre?
Alors en fait, Monique Wittig donne de l'oxygène. Je vous disais, ça me donne de l'oxygène. Adèle Haenel nous dit que Monique Wittig nous donne des lunettes. Mais elle enlève de l'oxygène et elle enlève des lunettes à d'autres personnes. Elle enlève des lunettes et elle enlève l'oxygène au molosse de l'ordre patriarcal, raciste et capitaliste en vigueur. Tout ça veut dire que sa pensée, qui dénaturalise les évidences du monde social, gêne énormément cette internationale de réactionnaires qui, du Vatican à Trump, en passant par Milley, en passant par les mouvements anti-avortement, les groupes antiféministes, les groupes racistes, les groupes anti-LGBT, attaquent non seulement les minorités raciales et sexuelles, mais les mouvements sociaux et, c'est la première fois dans l'histoire, les catégories et les théories que ces sujets minoritaires ont forgé pour penser la domination. On n'avait jamais vu des milliers de gens défiler dans les rues avec des pancartes contre des catégories sociologiques. La catégorie sociologique de genre, la catégorie sociologique de race, de racisation, d'intersectionnalité. En fait, il est aussi intéressant de voir que ces auteurs utilisent depuis le début des années 2000 la figure de cheval de Troie pour qualifier l'entrée des minoritaires dans le champ du savoir et dans le champ politique et pour le stigmatiser. Eh bien, qu'ils le sachent ou non, Wittig a théorisé la figure du cheval de Troie déjà dans les années 80, pour penser la prise de parole des sujets minoritaires dans le champ littéraire et plus généralement dans le monde social. Il s'agit pour elle de rentrer dans l'arène ennemie et de casser les évidences, de casser les rapports socio-économiques d'appropriation et de casser les rapports catégoriaux qui vont avec ces rapports d'appropriation socio-économique.
C'est aussi le fait évident que l'on parle de plus en plus des questions de sexualité qui permettent de redonner un dynamisme nouveau à la pensée de Monique Wittig.
Ça, je ne suis pas certaine, parce qu'en fait, son intérêt était pas tant la sexualité que l'hétérosexualité, définie non comme une orientation sexuelle, mais comme un régime économique, social et politique. Donc c'était vraiment sa vision systémique, matérialiste, antagoniste et constructiviste qui la place aujourd'hui au centre de l'attention d'intellectuels, de militantes et d'artistes.
Est-ce que vous diriez que la pensée de Monique Wittig est une pensée idéaliste, utopiste, ou dans le fond on est en réalité bien bien loin de cela ?
Je dirais qu'elle est absolument matérialiste, c'est-à-dire qu'elle est à la fois constructiviste et antagoniste, qu'elle s'ancre dans l'histoire et que le fait d'être matérialiste lui donne aussi une dimension utopique. Parce que théorie et utopie vont ensemble. Il faut, pour imaginer quelque chose qui n'existe pas encore, faire la théorie de quelque chose qui existe et faire la théorie de manière matérialiste en prenant à objet l'imbrication entre rapports socio-économiques d'exploitation et rapports catégoriaux qui traduisent cette exploitation dans le domaine linguistique et symbolique. Donc c'est tout à fait matérialiste et utopiste à la fois, et c'est joyeux que ça soit comme ça.
Voilà ce qu'on trouve dans votre livre, pour citer Michel Foucault, c'est notre fiction qui nous constitue. Notre rupture pratique consistera donc en la production de textes inattendus. C'est quoi un texte inattendu justement? C'est un texte qui va contre l'ennemi décrit plus tôt?
Absolument, c'est un contre-texte, elle parle aussi de contre-texte, qui ont pour fonction de remettre en vie des sujets, des histoires, des vies, des luttes qui ont été effacées. Parce que la question de l'histoire, en fait, hante Monique Wittig. Elle dit l'histoire est construite avec les catégories straight. Eh bien, elle a envie de faire des contre-textes qui se soient aussi des contre-histoires. Là, on voit l'importance de la figure de la lacune. Elle dit il faut reporter en vie des vies qui ont été effacées, notamment la vie des femmes, la vie des lesbiennes, mais aussi la lacune fonctionne comme quelque chose, non seulement qui a été effacé, mais qui n'existe pas encore. Et donc, elle fait vivre à la fois ce qui a été effacé par la conjuration du silence, elle parle comme ça des lesbiennes, mais aussi quelque chose qui est encore de l'ordre de l'inimaginable, comme l'au-delà de la catégorie de sexe.
Merci beaucoup Sarah Garbagnoli de ces explications, de cette introduction à la pensée de Monique Wittig. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse indépendante rattachée à l'université de Vérone en Italie. Et le titre de cet ouvrage que vous co-dirigez et qui vient de paraître, La pensée Wittig, une introduction, c'est aux éditions Payot. Merci d'être venu ce soir dans Questions du soir.